Chapitre 5. Dans les greniers. Je regretterais presque, bien que ce soit un hors-d'œuvre, d'omettre ici une narration de la journée mémorable que Ferdinand et Louise passèrent ensemble dans les greniers, triant, admirant, s'appelant l'une l'autre à travers des nuages de poussière soulevés et toussant à chaque minute d'une petite toux de chat qui les faisait rire pour dégager leurs voies respiratoires obstruées. Parfois, assises côte à côte sur un meuble vermoulu, partant ensuite à la découverte chacune de son côté et poussant des interjections de surprise ou de joie qui les amenaient bien vite, toutes deux, sous la lucarne, pour se communiquer leur découverte, elles s'amusèrent royalement et firent un vrai butin de pirates. Le grenier rond de la tour, auquel on arrivait par la dernière grimpée du tire-bouchon, ressemblait à un kiosque obscur, à cause de la charpente du toit qui s'élevait comme l'intérieur d'un éteignoir, en cône aiguë, et dont on pouvait suivre tout l'enchevêtrement compliqué de poutres et de poutrelles. Sur le plancher, il y avait des caisses, les unes clouées et qui n'avaient peut-être jamais été ouvertes, les autres munies de ferrures et de serrures. Monsieur Antoine, le mari de Françoise, on l'appelait monsieur parce que dans sa jeunesse, il avait étudié pour être notaire et qu'il avait échoué, et sa femme même, tout en le tutoyant, ne le nommait point autrement que monsieur Antoine, le valet de chambre, jardinier, homme généralement utile, lige et féal de château pointu, monta avec un grand cabas plein d'outils, décloua les caisses, traîna les plus lourdes sous la lucarne où l'on voyait clair. Le père de Louise avait été un grand voyageur, un collectionneur aussi, et assez riche pour apporter chez lui, non des bibelots communs, mais de vrais trésors. Il espérait, revenu de ses voyages, dégager du souci d'augmenter sa fortune, pouvoir enfin ordonner les curieuses richesses qu'il avait rassemblées dans trois continents et restaurer l'aile détruite de Château Pointu pour en faire une sorte de petit musée d'art qui serait la perle du pays. Il avait bien d'autres projets encore, dont quelques-uns se rapportaient à sa fillette qu'il connaissait à peine. Mais la mort le prit aux Antilles. Et pendant des années, toutes ces belles choses virent à peine la lumière. De temps en temps, Louise errait dans cette demi-nuit des greniers, comme une petite ombre indécise, soulevant un couvercle, déployant une étoffe et la nouant autour d'elle pour s'en faire une robe à traîne. Françoise, chaque printemps, donnait un coup de balai, essuyait les meubles précieux, puis les enveloppait de vieux sacs. Heureusement, la plupart des caisses étaient en bois de camphrier, dont l'odeur pénétrante éloignait les teignes et autres insectes destructeurs. « Voici qui te fera des rideaux !» s'écria Louise, penchée sur un bahut tout grand ouvert et cherchant à en tirer une lourde pièce de soie dont la teinte transparaissait à travers les papiers de riz souples et minces, imprégnés d'un vague parfum de Chine. La riche étoffe d'un jaune délicat glacé de rose, toute raide de broderie, se déroula, s'amoncela en plis cassants dans le bahut. « Ne perdons pas le sens !» répondit Ferdinand en riant. « Ces rideaux-là conviendraient au boudoir d'une princesse. Les vois-tu figurer dans ma modeste chambre, à côté de mon petit lit de fer et de mon lavabo en bois peint façon marbre ?» Louise soupira. La laide image de ce lavabo l'a hantée depuis la veille. « Tu ne refuseras pas du moins ce petit tapis, » dit-elle, continuant ses fouilles dans le bahut. « C'est un petit tapis très ordinaire qu'on achète pour presque rien au bazar de Constantinople. » Ferdine doutait un peu qu'on n'eût pour rien ces belles arabesques en soie jaune, un verset du Coran que l'aiguille patiente avait inscrit sur le drap vert foncé, et ces mouchets de soie qui se balançaient tout autour à de longs et fins cordons. Elle accepta néanmoins le petit tapis et poussa presque un cri de joie en songeant combien il ferait bonne figure sur le vilain guéridon de sapin qui occupait une des embrasures de sa chambre et qu'il cacherait complètement. Bientôt, un plateau de laque rouge portant un merveilleux petit service à thé, deux tasses mignonnes, un bijou de théière, une petite jarre remplaçant le sucrier, en vrai satsuma, crème, rouge et or, semé de gouttelettes d'émail ressemblant à des perles enchâssées, Ce délicieux tête-à-tête vint s'ajouter au tapis et fut accompagné d'un de ces cabinets du Japon, plein de tiroirs et de cachettes, qui peuvent servir de table à ouvrage, de secrétaire ou d'écrin. Ferdine ne cessait de protester que tout cela était trop beau pour elle. Louise se fâcha sérieusement et finit par déclarer qu'elle n'irait jamais voir Ferdine chez elle si sa chambre ressemblait à celle d'une pauvresse. Tout au fond d'elle-même, d'ailleurs, Ferdine n'était-elle pas ravie, touchée, enthousiasmée? Ces deux hauts cornets de vieux Rouen, à fleurs fantastiques, quel plaisir de les dresser sur la petite cheminée nue, remplie, suivant la saison, de fougères, de roseaux à tête brune, de branches d'églantines fleuries. Et ce tapis du Turkestan, d'épaisse laine, dont les rouges et les bleus se fondaient si harmonieusement, pour elle aussi? Oui, pour cacher le plancher, qui, près de la fenêtre, avait une grande tache. Dans le corridor du premier étage, qui était maintenant en réduit presque impénétrable, elles dénichèrent de vieilles chaises à croisillons, à haut dossier droit, garnies d'une antique tapisserie. Elles en choisirent trois que M. Antoine s'engagea à rendre comme neuves en les frottant avec de la cire et de la térébenthine. Quelques pas plus loin, les deux exploratrices tombèrent sur une petite commode ventrue en marqueterie jaune clair sur un fond brun, avec des poignées et des ornements de cuivre ciselé. « Pour ton linge et tes mouchoirs !» s'écria Louise. « Oui, ma chère, tu finiras par être meublée presque convenablement, bien qu'en style composite. Et j'ai comme un pressentiment que dans cette boutique d'antiquité, nous finirons par découvrir un lavabo. » Mais non, le lavabo étant une invention moderne, ne se rencontra pas. Ce que Louise réussit à trouver, ce fut un beau paravent en cuir gaufré et doré qu'elle savait bien être quelque part dans le fouillis. Monsieur Antoine, au soir de cette journée, descendit dans son rond appartement tous les meubles élus et promit de les transporter le lendemain sur la voiture de l'aubergiste jusqu'à la porte des Trois Pigeons. Le souper était servi chez la grand-maman que les récits animés des deux jeunes filles réussirent presque à faire sourire. « Quel long passé, dit-elle, et que de souvenirs enfouis là-haut! Il faudra, Louise, que tu montres un jour à ton amie les choses vraiment précieuses que ton père nous a rapportées d'Égypte et de l'Inde et de la Chine, ces bijoux étonnants, ces ivoires, ces émaux, enfermés ici dans les armoires de ma chambre. De ma maison, toute l'histoire, murmura-t-elle en appuyant son mouchoir sur ses yeux, de ma maison, toute l'histoire se retrouverait dans ces armoires ou dans le fond de ma mémoire. Ferdine, tout à coup songeuse, le cœur un peu serré, regardait autour d'elle, voyait le contraste étrange entre cette vie irréelle dans une tour ronde et l'existence de travail humble et précaire qui s'ouvrait pour elle dès le lendemain. Entre ces choses luxueuses, bizarrement exotiques, dont on la comblait, et la pauvreté, son lot quotidien, entre cette conversation lente, faite de silence presque autant que de mots, ponctué de rimes et le langage bref de l'homme qui, le lendemain, s'appellerait son patron, entre l'amitié fervente de Louise et les regards froids, presque protecteurs, de quatre autres jeunes filles qui n'avaient pas à gagner leur vie.